Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui nous permet de prendre le temps et d'aller plus loin sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va parler cinéma et s'intéresser à la saga Avatar. C'est l'événement de l'année 2022 au cinéma. Avatar, la voix de l'eau, le nouveau film du cinéaste canadien James Cameron, arrive enfin dans les salles, 13 ans après le premier Avatar, devenu entre-temps le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps? Comment Avatar a révolutionné le cinéma? Quels sont les enjeux autour de cette suite? Pour répondre à ces questions, j'accueille Aurélien Alain. Bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef adjoint du magazine Cinématiseur, mensuel consacré au cinéma et aux séries. Et puis notre spécialiste cinéma, Stéphane Boutsock, du service culture de RTL, est également à mes côtés. Salut Stéphane.
Salut tout le monde.
Stéphane, vous avez pu rencontrer James Cameron il y a quelques jours. On va entendre des extraits de l'interview tout au long de ce focus. Avant toute chose, on peut peut-être rappeler les chiffres stratosphériques, je crois que c'est le mot, du premier film Avatar sorti en 2009.
Oui, vous l'avez dit, un plus gros succès de l'histoire du cinéma. 3 milliards de dollars de recettes monde, si on parle d'argent. En France, c'est 15 350 000 entrées. C'est le sixième plus gros succès de l'histoire du cinéma chez nous. Et puis, autre chiffre, c'est 3 Oscars aussi récoltés par le film en 2014. Oscar technique.
Et ce qu'il faut dire, c'est que le film est ressorti, ouais. Là, il y a peu de temps, et il a conservé son trône, c'est ça?
Ouais. 400 000 entrées rien qu'en France, et Cameron, quand il est venu la semaine dernière, nous a dit, je sais que c'est en France où ça a le mieux marché, cette ressortie dans le monde, donc il y a un vrai appétit.
Aurélien, là, ça vous a étonné que le film ressorte, on sait pourquoi, pour rafraîchir la mémoire, on va dire, et peut-être séduire une nouvelle génération qui n'avait pas pu le voir en salle en 2009, mais ça vous a étonné, ce chiffre de fréquentation, là, quand même?
Moi, ça m'étonne pas que les gens aient envie de revoir Avatar sur grand écran, parce que c'est clairement sa place première, un tel spectacle que c'est là qu'on doit le voir ou le revoir. L'appétit m'a pas surpris, mais un tel appétit, oui, parce que, en fait, c'est quand même, faut se rendre compte que le film a 13 ans. Il a fait, je crois, 75 millions de dollars de recettes dans le monde pour la ressortie.
C'est fou,
Ce qui est fou parce que c'est clairement, c'est des scores que d'autres films ne font pas. Et c'est vrai que c'est un film qui avait été vu en salle, en Blu-ray et DVD, à la télé, sur les plateformes de SVOD. Il était sur Disney Plus depuis des années. Tout le monde pouvait le voir facilement. Et le fait que les gens se dépassent à nouveau à ce point-là, c'était quand même assez surprenant. C'est pas juste un phénomène qui s'est passé il y a 13 ans et qui s'est éteint, c'est pas vrai du tout.
Et ça montre la curiosité pour la suite et dire que le public attend cette voix de l'eau qui sort. James Cameron, Stéphane, ça représente à lui seul combien de millions d'entrées? Alors, en France,
j'ai pris ma petite calculatrice, c'est plus de 50 millions d'entrées parce qu'il y a Avatar, n'oublions pas qu'il y a quand même Titanic, il y a Abyss,
Terminator,
il y a un Alien, enfin c'est un réalisateur dingue quand même Cameron et qui est très populaire depuis assez longtemps.
Rien qu'en France, 50 millions d'entrées.
Plus de 50 millions.
Aurélien Alain, Avatar est devenu culte pour d'autres raisons que ces chiffres synonymes de triomphe absolu?
Oui, parce qu'en fait, les chiffres, ils sont le reflet d'un intérêt. C'est-à-dire que les gens ne vont pas voir un tel film en masse à ce point-là, juste parce qu'il faut le voir. Il y avait un peu de ça, je pense qu'à l'époque, il y avait une curiosité sur le film dont tout le monde parle, il y avait la 3D, etc.
Et puis on le revoyait.
En fait, un succès pareil n'a lieu que si les gens revoient les films plusieurs fois. Je pense que le film est devenu aussi important parce qu'il était en prise avec son époque. Je pense que c'est un film qui a dans ses thématiques, qui parlait d'écologie, qui mettait aussi en avant un personnage féminin, donc c'était aussi important. C'était un film extrêmement politique aussi, c'est un film qui parle beaucoup de l'impérialisme américain. Donc, 7-8 ans après le 11 septembre, je pense que c'était un film qui était en prise avec ce que l'Amérique vivait en Afghanistan et tout ça. Donc, c'est un film qui, bien que de science-fiction sur une autre planète, était vraiment en prise avec le monde de l'époque, et on se rend compte qu'il est toujours en prise avec notre monde d'aujourd'hui. Donc, effectivement, c'était un film extrêmement pertinent aussi là-dessus. Je pense que aussi les gens se sont reconnus là-dedans. Mais je crois que le principal facteur, c'est que c'est le niveau de l'évasion que propose ce film. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui propose de se rendre quelque part qui n'existe pas, et il le propose de manière extrêmement réaliste, avec la 3D et puis des effets spéciaux qui sont clairement le summum de ce qu'on peut faire.
On peut dire que Avatar 2009, c'est le premier blockbuster écolo de l'histoire du cinéma.
Je sais pas si on pourrait dire ça, parce que je pense que c'est des valeurs qui peuvent être vues dans d'autres films, mais c'était clairement son propos principal, et c'était un peu son argument de vente. C'était parce que James Cameron, c'est un explorateur en plus d'être un cinéaste. C'est quelqu'un qui se rend dans les océans, il est même recordman du monde de plongée dans l'océan. Donc c'est quelqu'un qui est en prise avec la nature. Donc c'était clairement un des arguments de vente du film, c'était ce propos-là.
Et puis, écolo, pas catastrophiste en plus.
Non, c'est ça. Quand vous allez voir le 2, il pousse ce curseur-là au paroxysme. précis, c'est-à-dire qu'il y a de très très longues minutes, peut-être même une demi-heure, où on est vraiment dans l'eau avec la faune, la flore et cette civilisation qui vit aussi en partie sous l'eau.
Il y a une longue scène sur la souffrance animale qui est absolument qui est déchirante parce que c'est filmé de manière extrêmement frontale. Et ce que nous fait ressentir James Cameron dans cette scène, c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez, enfin qu'on voit même jamais dans le cinéma grand public américain. Et donc ça, c'est effectivement assez impressionnant de le voir sur grand écran. Ouais.
Alors parmi les autres raisons qu'on peut avancer pour expliquer pourquoi Avatar est devenu culte dès 2009, est-ce qu'on peut dire aussi que James Cameron avec Avatar a inventé il y a 13 ans une autre façon de faire du cinéma ?
Depuis le début, c'est-à-dire son cinéma a toujours été aussi basé sur des avancées technologiques. C'est-à-dire que il y a eu Titanic, on s'en rappelle, il est repassé il n'y a pas si longtemps à la télé, les scènes quand même restent assez dingues. C'est quelqu'un qui construit des caméras, qui construit des logiciels. Et là, encore une fois, dans le 2, les effets spéciaux sont assez hallucinant de réalisme, alors que tout est virtuel. Je veux dire, l'eau, il n'y a pas une scène qui a été tournée dans l'eau quasiment. On a recréé ça par ordinateur. Donc, ça a toujours été son credo de faire aussi avancer la technologie, mais à condition qu'elle soit au service de l'histoire. C'est-à-dire que parfois, malheureusement, c'est un peu l'inverse. Les effets spéciaux bouchent un peu des trous de scénario.
Il montrait que la 3D n'était pas qu'un gadget, en fait, avec Avatar. C'est un peu ça.
Oui, d'ailleurs, à mon sens, c'est un des rares films. Ouais. Il y a peut-être le Hugo Cabret de Martin Scorsese qui l'utilisait aussi de manière extrêmement narrative. Et le Tintin de Spielberg, mais globalement, ils sont pas nombreux. Et non. Avatar, c'est clairement l'exemple principal de film où la 3D sert un propos. C'est-à-dire que vraiment, on parlait tout à l'heure d'expérience et de découvrir un monde. La 3D, c'est une fenêtre vers ce monde-là. Et clairement, s'il y a bien un cinéaste qui l'a utilisé de manière déjà extrêmement impressionnante, c'est-à-dire qu'elle fonctionne vraiment bien visuellement, ce qui n'était pas le cas de tous les films en 3D. Donc non seulement la 3D est visible, mais en plus, elle sert le propos, elle sert l'immersion du spectateur, l'expérience du spectateur. Donc, et c'est un des rares films à l'avoir fait.
Stéphane, vous avez eu la chance de rencontrer James Cameron il y a quelques jours à Paris. Il est venu à Paris. On peut écouter un premier extrait de cet entretien.
Eh ben, qui concerne justement cet aspect technologique du film et la réhabilitation, en quelque sorte, de la 3D qu'on a. Alors, il y a toujours des films en 3D, mais ils sont pas tous extrêmement glorieux. Et ça, Cameron en est extrêmement conscient.
From a tactical standpoint. D'un pur point de vue technique, c'était la partie la plus facile pour moi. On avait déjà réglé tous ces problèmes auparavant et nous n'avions plus à y penser. C'est comme quand on est passé à la couleur, c'était fait. Ang Lee a fait de la très bonne 3D avec l'Odyssée de Pi, Martin Scorsese aussi, ou encore Ridley Scott avec Prometheus. Mais tous les autres se sont plantés en convertissant leur film en 3D. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Faites-le, mais alors, faites-le bien. D'autant que la 3D est arrivée à un stade intéressant en termes d'équipement. À la sortie d'Avatar, il devait y avoir 2500 salles aux États-Unis et environ 3500 ailleurs. Aujourd'hui, on doit être à 120 000 écrans 3D dans le monde. Je sais aussi qu'en France, quand nous avons ressorti le premier Avatar récemment, non seulement ça a très bien marché, notamment chez les jeunes, mais en plus, 97% des entrées se sont faites en 3D.
Il a les chiffres territoire. Non, mais c'est fou. Hein. C'est ce qui est assez fascinant chez cet homme-là, c'est que il connaît exactement. On m'a dit que quand il est venu donc en France, il est allé dans des salles pour voir dans quelles conditions son film serait projeté et voir si les réglages étaient bons.
Sur Avatar 2, il a même il a une volonté, comme le film est présenté en plein de versions différentes. Mais il y a la VF et la VO évidemment, oui. Mais il y a la 2D, la 3D.
Bien sûr.
Il y a la version en 48 images secondes ou pas, version 2K ou 4K, et en fait, il a une volonté de proposer la meilleure version possible selon la salle. Et donc, il a une vraie conscience de la technique pour le spectateur et à quel point la technique doit servir l'expérience du spectateur. Et donc ça, il est extrêmement attentif. Et son producteur, John Landau, qui le produit depuis Titanic, en fait, avait fait un tour du monde avant Avatar pour pousser les exploitants à passer à la 3D. Parce qu'avant Avatar, il y avait genre 86 écrans dans le monde qui présentaient de la 3D de manière convaincante. Et donc, il avait fait ce tour du monde-là pour convaincre les exploitants. Et John Landau, c'est un VRP pour que les salles puissent accueillir les films de James Cameron. Donc,
L'industrie du cinéma peut dire merci à James Cameron.
C'est vrai, hein, oui, quand franchement. Même,
ouais. Et il a cette réputation de tout vouloir maîtriser. Enfin, d'ailleurs, il maîtrise tout, d'après ce que j'ai pu lire. Il contrôle tout sur le tournage, il vérifie tout. Les gens du cinéma disent qu'il a un côté Kubrick, quoi, pour ça, où il, vraiment, il laisse rien passer.
Il y a des vieilles légendes là-dessus. On se souvient sur Abyss, à la fin du tournage, l'équipe technique portait un t-shirt J'ai survécu au tournage d'Abyss. C'est vraiment, il a cette légende-là d'être vraiment quelqu'un de difficile et en même temps, tous ceux qui travaillent avec lui, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec lui, qui retravaillent avec lui. Kate Winslet, après Titanic, revient sur Avatar 2. Il y a plein d'autres acteurs comme ça. Il est difficile, mais je pense qu'aussi, c'est fait partie de ces grands cinéastes qui contrôlent tout. Donc, il a un peu cette légende de cow-boy, quoi, ou de l'Américain parle de Maverick, enfin, c'est un peu ça quoi.
Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 13 ans avant de découvrir la suite d'Avatar ?
En fait, le premier scénario d'Avatar 2, il l'a jeté à la poubelle. Il a écrit un scénario en entier et il l'a mis à la poubelle parce qu'il estimait que le film qu'il avait écrit ne retrouvait pas l'aspect principal du succès du premier, qui était un aspect intangible, presque métaphysique, de lien existentiel entre le public et le film. Donc il fallait retrouver quelque chose de ce qu'on dit de l'expérience en fait, d'immersion de l'expérience. Et donc il est reparti de zéro. Il a fait ce qu'on fait beaucoup dans les séries. Il a fait une writers room. Donc il a réuni des scénaristes et ils ont discuté à 5. Il a engagé 4 scénaristes et ils ont discuté ensemble et ils ont cartographié 4 suites. 2 d'entre eux ont écrit les 2 et le 3 et les 2 autres ont écrit le 4 et le 5 avec lui. Donc ça a pris du temps. Et puis en plus, on l'a dit, c'est non seulement c'est un explorateur, mais c'est donc un inventeur de technique. Je pense que Avatar pour lui c'est aussi un laboratoire de recherche et développement, clairement, et ça prend du temps.
Et puis il fallait aussi que les outils soient là, c'est-à-dire que le boulot sur l'eau dans les effets spéciaux, c'est sans doute un des trucs les plus compliqués qu'il y a à faire. Et là, quand vous allez voir Avatar 2, c'est-à-dire on voit pas la différence. Moi, je sais au départ, je le sais maintenant, mais on ne sait pas ce qui est faux, ce qui est vrai. C'est-à-dire l'illusion est absolument parfaite et oui. Il faut que ces machines-là, elles soient prêtes.
Ouais, créer des caméras, tout simplement. Quoi.
Des caméras, des logiciels. Le système, ouais. Et en fait, la production du film, elle a été lancée en 2017, ce qui est 5 ans, ce qui est encore à peu près raisonnable. Lucas, il a mis des décennies à attendre que les outils soient prêts pour donner une suite à Star Wars.
Pour vous donner un exemple, pour capturer les mouvements de visage sur le premier film, ils avaient une caméra bloquée sur les visages, une caméra en SD, donc pas en HD. Et là, sur le 2, ils ont 2 caméras en HD 4K braqué sur chaque visage, donc forcément le gap de qualité et de précision de captation des expressions du visage est énorme. Par exemple, la brillance pour la 3D, parce que la 3D avant assombrissait l'image, aujourd'hui c'est plus le cas, donc tout ça, enfin il y a un gap en 13 ans, c'est une éternité en technique vu comme ça. Lui il va être au top de ce qui peut se faire et même être au-dessus. Donc ça prend du temps.
Stéphane, lors de votre rencontre avec James Cameron, vous lui avez demandé dans quel état d'esprit il livrait son film La Voix de l'eau au public.
Je dirais nerveux, car c'est un énorme projet dans lequel j'ai investi beaucoup d'argent et une partie de ma vie et de celle de mon équipe. Je pensais à ça durant les 40 heures de vol entre la Nouvelle-Zélande et ici. Je ressens comme une impuissance paisible, une sorte de vide, parce que je ne peux plus rien y faire. J'ai passé 5 ans à construire ce film pour qu'il soit le meilleur possible tous les jours, et là, ça ne dépend plus de moi. C'est fini. Et ça fait tout juste 3 jours de cela.
Ouais, le film est prêt depuis très très peu de temps, vraiment en plus.
Le voyage continue en tout cas. Stéphane, plantez-nous le décor de ce nouveau film Avatar, La Voix de l'eau.
Alors, on est au 22e siècle, ça on sait. On est une quinzaine d'années après le premier film. On est toujours sur Pandora, donc cette planète fertile du système stellaire Alpha Centauri A, je me suis renseigné. Habitée donc par les Na'vi, qui est un peuple qui vit en symbiose avec la nature. Pandora est convoitée, mais ça aussi on le sait depuis le premier film, par les hommes, par les humains, pour son minerai rare, alors que la Terre, elle, est à bout de ressources énergétiques. Et en fait, on retrouve ce qu'il y avait dans le premier, c'est un western assez classique, ma foi, l'affrontement entre des colons et des natifs. Battus dans le premier film, les hommes reviennent traquer Jack Sully, qui est un des leurs, devenu Na'vi, et vont le poursuivre, lui et sa famille, cette fois jusque dans l'océan, où il a trouvé refuge auprès d'une autre communauté. Voilà ce que je peux vous dire, globalement.
On retrouve plusieurs personnages d'Avatar 2009, oui. Des acteurs dans cette suite.
Oui, Sam Worthington vient pour jouer Jack Sully, Zoe Saldana vient jouer Neytiri, Stephen Lang joue toujours le méchant Miles Quaritch, et Sigourney Weaver est là, mais dans un autre rôle. On va pas trop en dire, parce que c'est, quand les gens le sauront, ça sera surprenant.
Et Kate Winslet, vous l'avez dit, retrouve James Cameron, voilà. 25 ans après Titanic. Elle est présente aussi?
Oui, mais alors sous une certaine forme, je serais tenté de vous dire, voilà. Vous attendez pas à voir... la Kate Winslet qu'on connaît. Voilà.
Allez, on va passer maintenant en revue les enjeux majeurs autour de cette suite d'Avatar. Alors déjà, il faut le dire, il y a un enjeu pour le box-office mondial.
Oui, parce que de toute façon, je pense que là, le cinéma se cherche des sauveurs. On a eu Top Gun Maverick avec l'inépuisable Tom Cruise.
Tom Cruise et James Cameron vont peut-être sauver l'industrie du cinéma et les salles.
Et je pense qu'effectivement, Avatar là-dessus est extrêmement attendu. Je pense que les exploitants ont très envie que ça fonctionne. Je pense que les spectateurs aussi, Hollywood aussi. effectivement, l'enjeu financier est énorme parce que c'est des films qui coûtent très, très, très cher. Le chiffre qu'on a, mais à mon avis, il est minime. On parle de 250 millions de dollars de budget hors marketing pour chaque film. Donc, ouais. Disney aurait dépensé 1 milliard pour 4 films. Mmh. À mon avis, on est en dessous de la vérité. Je pense que ça coûte beaucoup plus cher que ça. Et donc, forcément, c'est des films qui, enfin, un film pour se rembourser va devoir gagner beaucoup. Donc, le chiffre qui est avancé pour l'instant, c'est qu'il devrait rapporter 2 milliards pour être profitable, qui est un chiffre colossal, hein, 2 milliards. Hein. Il faudra qu'il compte sur le marché chinois pour ça. Et je pense que c'est typiquement le genre de film qui peut très bien marcher sur le marché chinois.
Autre enjeu de taille, Stéphane, être à la hauteur du premier film, ne pas décevoir, donc continuer à éblouir le spectateur. Tout est là pour éblouir encore plus.
Je crois que c'est vraiment le bon mot. C'est-à-dire que les scènes d'action, etc., sont évidemment bluffantes, mais ça, on sait depuis très longtemps que Cameron sait faire. Moi, ce qui m'a vraiment à la fois bluffé, touché, c'est quand on est sous l'eau, c'est-à-dire que la vision que Cameron donne de cette partie sous-marine de la planète Pandora est juste folle, parce qu'il a tout inventé, c'est-à-dire à partir de choses qui existent encore, profitons-en, sur notre Terre, il a inventé des animaux, il a inventé des plantes, et les images sont folles, et c'est très très rare de prendre autant de temps dans un film de ce genre. Alors on va peut-être lui reprocher que ça soit un peu long, et qu'il a peut-être pu couper quelques minutes, mais moi je me suis laissé embarquer au sens propre comme au figuré, et c'est presque hypnotisant par moment. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des documentaires qui sont moins beaux que ce qu'on voit là.
3h15, hein, le film.
Ouais, moi, je ne sais pas toi, j'ai pas regardé ma montre une fois.
C'est un film qui prend le temps de construire son monde et de laisser le spectateur y entrer. Il y a ce côté un peu d'errance presque dans ouais. et de découverte d'un monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les blockbusters actuels ne font plus, où on a tendance à tout expliquer par le dialogue et à toujours être extrêmement pédagogique et voire didactique. Et ça, c'est assez rafraîchissant finalement.
Et puis la dernière partie, sans rien en dire, elle est juste hallucinante dans l'action et dans la densité.
Ouais. Moi, ce que je trouve fort dans le film, c'est ses thématiques. Les blockbusters actuels ont tendance à pas raconter grand chose du monde. L'avantage d'Avatar, c'est que ça raconte quelque chose et ça dit quelque chose du monde, même plus que dans le premier, à vrai dire. Mmh. C'est quelqu'un qui a une écriture assez, de toute façon, qui a toujours été assez binaire, hein, Cameron, dans son écriture, ce qui est pas un mal, hein, c'est pas un défaut. Donc, c'est une écriture qui est assez sentencieuse par moment. C'était déjà dans le cas dans Titanic ou dans Terminator 2. Mais ça sert un propos qui a une sincérité et qui a une vraie pertinence, surtout.
James Cameron a créé un univers, vous nous en parlez, dont l'exploration ne fait que commencer finalement, parce que c'est seulement le deuxième film. Il travaille sur 4 suites en même temps, enfin le 2 en faisait partie.
C'est Disney, hein, vous savez, donc c'est très programmé.
On connaît déjà les dates, c'est pour ça les années.
Donc le 3 c'est en 2024, le 4 c'est en 2026 et le 5 c'est en 2028. Alors Cameron, il est quand même prudent. Quand on l'a vu, il nous a dit bon, ça peut s'arrêter au bout du 3 parce qu'on a boutiqué le récit pour éventuellement devoir conclure l'histoire si ça ne marche pas. Si ça marche très très bien, oui, en effet. Le 2, donc, il sort. Le 3 est tourné.
Le 4, quand John Lando est venu en septembre, il disait qu'ils avaient tourné le premier acte.
Voilà.
Donc, oui, globalement, un peu moins d'un tiers, peut-être.
Et le 5 est écrit et prêt à tourner. Mais Cameron, il a aussi... C'est ça qui est assez touchant, c'est qu'il envisage peut-être un 6, un 7, même si ça serait peut-être pas lui.
On l'écoute.
You can see that there are a couple of
things in the... Vous verrez qu'il y a 2 ou 3 choses qui restent en suspens dans le film. On pose un tas de questions sans y apporter toutes les réponses. Ça rappelle des sagas comme celle du Seigneur des Anneaux, et nous n'avons jamais caché que notre histoire s'étalait dans le temps. Mais il faut que le film rapporte de l'argent. On le saura d'ici un mois, peut-être 6 semaines. Tout dépendra du fait que les gens veulent revenir le voir ou pas. Le trouveront-ils suffisamment intéressant pour y emmener leurs potes, leurs parents, leurs enfants ? Si ça arrive, alors on est bon et nous pourrons poursuivre la saga. C'est aussi simple que ça. Donc, je croise les doigts, mais je n'ai aucune certitude. J'ai 68 ans et ça va me prendre encore une décennie. Donc, j'en aurai 78 quand j'aurai terminé. Et que se passe-t-il si j'ai un pépin ? J'ai demandé à Disney d'investir des milliards de dollars dans cette saga et je dois avoir un plan de succession. On n'arrive pas à faire un film comme Avatar en un jour et je peux vous dire qu'il n'y a pas un autre réalisateur aujourd'hui qui puisse le faire. Ça s'apprend. J'ai besoin de trouver quelqu'un qui m'observe et prenne le relais au cas où. Je ne veux pas m'inquiéter du fait que tout puisse s'effondrer sans moi. Idéalement, je veux faire le 5e film et je vais vous dire pourquoi. Le scénario du 3 est meilleur que celui du 2, celui du 4, c'est une putain d'histoire. Quant au 5, il se termine tout en beauté, donc je veux le mettre en scène, mais tout en étant très motivé, je suis aussi réaliste.
James Cameron à votre micro, Stéphane. Il est fascinant, il prévoit tout, il est très bon vendeur en plus. Il aura mis du temps, mais il est vraiment en train de fabriquer une saga monumentale.
Ah oui, oui, ça c'est sûr que c'est sa grande œuvre. Hein.
Ouais. Les quatre suites exploreront une nouvelle zone de la planète.
Bah, on sait, en fait, sur le 3, il y a...
Là, on est d'accord, c'est la mer.
Hein, là, c'est la mer.
La voie de l'eau.
Moi, il n'y a pas d'infos sur le 3.
C'est tout. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi, effectivement, chaque film aurait une nouvelle partie de Pandora. Ça reste des rumeurs. Hein. Enfin, lui, il donne très peu d'infos. Son producteur, pareil. Disney, encore moins. Donc, bon, je pense qu'il va falloir attendre 2 ans, au mieux.
Aurélien, Alain, il est bien sûr question d'Avatar dans le dernier numéro de votre magazine Cinématiseur, hein, de décembre-janvier.
Oui, tout à fait. On a organisé une rencontre entre le producteur John Landau et un cinéaste français qui s'appelle Mathieu Turi, qui est un fan d'Avatar. Et c'est une jolie discussion entre les deux.
À retrouver dans le magazine Cinématiseur, c'est Steven Spielberg qui est en couverture.
Ouais, tout à fait.
Aurélien, Alain et Stéphane Boutsock, merci de nous avoir accompagnés dans ce focus dédié à la saga Avatar, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver, bien sûr, sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.